et toujours dans les infrastructures du département. C'est la question que je te pose. Peut-on être raisonnablement optimiste sur la déviation de la Roche de Rame si l'organisation des JO que tu as vilipendé tout à l'heure dans les Alpes françaises était bien validée?
Ça fait à peu près... Moi, j'ai été élu la première fois en 89. Donc ça fait déjà à peu près 30 ans, 40 ans qu'on parle de la déviation de la Roche de Rame, qui n'aura jamais lieu.
Donc tu es pessimiste.
Mais c'est pas pessimiste, c'est réaliste. Il y a eu des études, là il y a des études qui ont été faites, qui montrent que le coût serait monstrueux, parce que si on fait une déviation, il faut déplacer le lit de la rivière, il faut faire, il y a tout un tas d'infrastructures qui sont à revoir, la SNCF...
On peut pas faire un pont.
Il faut
un pont qui enjambe.
Mais on peut tout faire.
Oui, je sais.
Mais à quel coût et quel intérêt? Quel intérêt aujourd'hui?
L'intérêt, ça serait de fluidifier quand même.
Mais c'est facile. Il y a 10 maisons à faire sauter en indemnisant correctement les gens. Et qui permettrait de résoudre le problème.
Tu parles de ces maisons du petit...
Qui sont inhabitées.
Entre le lac et le nouveau feu rouge.
Qui malheureusement ont été retapés ces derniers temps. Oui. Dans la vue peut-être de faire une opération
financière. D'indemnisation.
Peut-être.
Non, je ne crois pas. Moi, je connais... Il y en a un qui a fait la maison en rouge. Là,
oui.
C'était pas dans un but de se faire des ronds. C'est parce qu'il avait vraiment besoin d'un grand local. Donc, il va peut-être bénéficier d'une expropriation, mais ce n'était pas son idée.
D'accord. Enfin bon, toujours est-il que je pense qu'il y a une possibilité en faisant péter le rocher qui est au-dessus du lac, en éliminant deux ou trois maisons qui sont dans l'entrée, et le problème est résolu. Mais on se braque, ça fait des années et des années que les gens de la Roche se braquent sur cette déviation, qui malheureusement, pour eux, n'aura jamais lieu. Parce que c'est monstrueux comme coup.
C'est pour ça qu'on passe devant le slogan « Une déviation, rien du tout », et à chaque fois on pense la même chose. Bah,
rien du tout.
Mais
c'est ça.
Ça me rappelle ce qui s'est passé entre Montgenèvre et Monnetier. Montgenèvre, à un moment, il y a eu l'autorisation, comme à Monnetier, de faire une déviation. Le maire de Montgenèvre, qui est un garçon intelligent, a dit « Banco, on y va ». Et puis... Il y a eu les Jeux Olympiques de Turin. Il a dit, oh, ben oui, mais la déviation, enfin, le passage souterrain, c'est un peu con, quand même. Et il a été voir la région, il a été voir l'État, et il a dit, bon, on va couvrir. Et donc, maintenant, on a une station merveilleuse. Ouais. Monnetier, on a fait l'inverse. On a dit, non, nous, on veut un passage couvert. Couvert, tellement couvert qu'on n'a rien eu du tout. Et qu'on n'aura pas de quelque chose avant longtemps, parce que là où devait passer la déviation...
C'est urbanisé maintenant.
Eh bien voilà.
Ouais. Donc, alors que c'est la commune la plus sympa de Serrecheux.
Bien sûr. C'est celle qui a le plus de cachets.
Bien sûr.
C'est celle qui mérite effectivement cette déviation, qui a toujours été refusée pour...
Philippe qui réagit enfin parce que il a été épuisé par son édito tout à l'heure. Il a travaillé pendant 3 semaines quand même. Donc si tu veux, à partir de là, il se repose un peu. Et donc là, il commence à respirer, à revenir dans le game.
J'aime ce genre d'introduction. On se demande bien ce que je vais dire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Rémi n'a jamais réagi à ta présentation là.
Non, c'est vrai.
Absence. Moi, j'aurais bien aimé un droit de réponse. Mais enfin bon, je ferme la parole.
Le seul droit de réponse, c'est qu'il y a une mauvaise analyse. Retraite. Dire que les retraités sont en vacances, c'est pas quelque chose. Ça n'existe pas.
Et puis moi, j'ai pas aimé ton expression branlée, parce que franchement, c'est dégueulasse.
Ah bah,
c'est pas digne d'une station de radio de qualité comme Alpe 1.
Ouais.
Et c'est pas digne des retraités.
Voilà.
La vulgarité.
Merci Philippe d'avoir permis à nos deux vieux de réagir.
Non, la
grossièreté n'est pas qu'au Parlement.
Je veux dire que c'est toujours la même histoire, c'est la volonté d'un homme. Berengueul qui dit je veux pas un pont parce qu'il pense à sa pomme.
Hein. Bah, il pense à sa ville.
Oui.
Mais il se trompe peut-être sur l'analyse.
Il pense aussi aux élections de 2026 et à l'indemnité qui va avec. Enfin,
ne fais pas de procès d'intention comme ça.
Il n'y a pas que lui. Pas à Victor.
Pas Victor.
Je retire ce que j'ai pas dit. Là, après, on parle de Jacques. Ermite, son prénom.
Guy
Ermite. un personnage, Guillermite.
Bien sûr. Ouais.
On a toujours voulu l'inviter à cette émission. Il n'a jamais voulu venir.
Mais non, parce qu'il n'aime pas.
Oui, puis parce que de toute façon, il serait venu, c'est même pas la peine qu'on vienne.
Oui, parce qu'on lui donne le micro et puis c'est mort.
Mais n'empêche que Guy, toujours une histoire de quelqu'un qui influence une décision, c'était lui. Ouais. L'histoire de la tranchée couverte, c'était lui, je m'en souviens à l'époque.
Ouais, ouais.
Et il a bien expliqué en clair que ça n'a rien coûté, pas coûté un copec à la commune de Montgenèvre. Que c'est l'État qui a tout payé, ça, je me souviens, il l'a dit haut et fort.
C'est un politique, un vrai politique, c'est-à-dire qu'il y a de la vision. Exact. C'est ça, en fait. Non, c'est ce qu'on demande aux gens qui nous gouvernent, c'est d'avoir de la vision.
Il a fait de sa station une vraie station.
Mais, oui.
Mais moi, j'ai connu Guy, parce que j'ai été amené à travailler avec lui, et il avait une qualité, c'était la chasse aux subventions. Et il avait mandaté une personne de son équipe de s'occuper de ça presque à temps plein. Alors une ou deux, j'en sais rien. Mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que par ce billet des subventions, il a réussi à faire des choses très intéressantes pour sa commune.
Mmh. Voilà. Et je termine avec mon étier, je connais un peu la vallée. Là, il y a eu une volonté négative sur le sujet, alors que tout était prêt. Effectivement, tu l'as expliqué. Ouais, le secours, on voit, il n'y a pas si longtemps, on voyait encore le couloir dans le village qui était prêt pour une tranchée couverte. C'est-à-dire qu'on évitait les bouchons de Monnetier, c'est pareil, c'était une horreur. Quoi. Et je me suis dit, on parle du succès, je fais encore un retour en arrière de Montgenèvre. J'y suis allé 2-3 fois en Italie. Et je suis passé à Montgenèvre vers 9-10 heures du matin. Mais c'était, je ne vous parle pas de vacances, de machin, c'était blindé. Blindé de quelle nationalité ?
L'Italien.
C'était que des Italiens. Donc il y a un truc fabuleux qui a été fait à Montgenèvre. Franchement, ils sont balèzes. Hein. Pas d'entre nous, à Serre-Chevalier, on ramait un peu début janvier. Là, mais c'était impressionnant. Alors finalement, à Monnetier, on a dit non, machin, ça passe devant chez moi. Hein, ça va faire du bruit, nani, nana. Et il n'y a plus rien. Et on est toujours dans un truc bloqué. Voilà. Tout ça pour dire, c'est de la volonté de personne.
C'est le courage dont Gérard a parlé tout à l'heure. Et ben oui, il faut aller au.
Non mais on peut, si on fait l'historique des gens qui ont eu du caractère. Moi j'ai en tête Patrick Ollier. Il a fait des choses intéressantes pour sa commune et pour la station parce que le Club Med et tous les aménagements qu'il a fait, c'est impressionnant.
Très très bien.
Très très bien.
C'est un cas un peu à part, hein, Patrick Ollier. Il venait faire un peu sa carrière politique chez nous.
Oui, mais n'empêche que ça,
en tant
qu'habitant du coin, on en bénéficie.
Je me souviens très bien de l'époque Ollier, parce que j'étais correspondant de presse pour le Dauphiné. C'était quelque chose, les conseils municipaux.
T'avais des journalistes.
Eh oui.
Oui, on sent quand même petite pointe d'amertume lorsque tu parles de Serre Chevalier. Je ne sais pas pourquoi.
Il y avait un maire qui avait dit une fois, on a tout d'une petite... Il y avait un slogan à l'envers, c'était « On a tout d'une grande ».
Oui, oui, oui.
Parce que il n'y a pas d'ambition, quoi. On sent que ça ne fonctionne pas. J'étais dans des instances avec Gérard, style comité de l'office de tourisme, du machin comme ça, des trucs où il pourrait s'y passer des choses incroyables. Mais il y avait toujours au-dessus de nous quelque chose, je sais pas.
Un blocage
de gens, de dire « ben non ». Des intérêts peut-être.
De clochers
financiers, d'influence, et ça change pas.
Le problème, c'est une station de 4 villages, hein, c'est ça. Ouais, le
exactement.
Problème.
En plus.
Enfin, ce qui a sauvé quand même Serre Chevalier, et moi je pense, hein, c'est la Compagnie des Alpes,
bien sûr.
Parce que là, on est sorti de l'ornière avec eux.
On serait mort.
Mais j'étais journaliste comme tu l'as dit. J'ai écrit il y a 20 ans des choses sur Serre Chevalier. Je ressors mes vieux bouts de papier journaux.
Ils sont d'actualité.
Tout jaune, c'est pareil. Enfin, on sent pas de discours. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est le manque de discours collectif. C'est-à-dire que vous avez un maire qui dit
Approche-toi.
Saint-Chaffray a fait un blocage pendant des années qui a coûté une fortune aux différentes communes, parce qu'il y a devant les tribunaux. Il n'y a que les tribunaux qui sont enrichis dans cette affaire.
Les avocats.
Et les avocats, bien sûr.
Alors, on parle du contexte politique local, régional, national, qui n'est pas fameux. Contexte international qui n'est pas plus serein. On est toujours dans la guerre en Ukraine. Hein. Ça fait quand même quelques années que ça dure maintenant.
Mercredi prochain, c'est fini.
Alors justement,
j'ai des nouvelles.
Gaza aujourd'hui c'est terminé grâce à Trump.
On est toujours dans la guerre au Moyen-Orient, même si les tensions là, visiblement, ça se calme. tension internationale quand même qui s'intensifie un peu partout. Et comme si on n'en avait pas assez, nous avons donc le futur président de la première puissance du monde qui n'a rien trouvé de mieux que de déballer ses velléités expansionnistes avec le Panama, le Canada, le Groenland. Alors, la question que je voulais vous poser, à vous tous d'ailleurs, est-ce qu'on doit prendre Donald Trump au sérieux, selon vous ?
Malheureusement, oui. Malheureusement, oui.
Bah, oui.
Ce mec est un fou. C'est un taré de première. Sauf que c'est le président de la plus grosse puissance mondiale.
Oui, et puis et qu'il a été bien élu. Hein.
Et qui est très, très bien élu. Et qui a avec lui des gens qui sont capables de modifier l'image politique de toutes les républiques de la Terre. C'est avec son ami...
Musk.
Elon Musk.
C'est dramatique, ces gens-là. Ces gens-là ont les moyens qui sont de l'ordre de ce que touche du chiffre d'affaires des plus grosses entreprises mondiales.
Et vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui sont en admiration devant Donald Trump. Oui. Et qu'il y a beaucoup aussi d'intervenants au niveau des télés. Je suppose que vous zappez de temps en temps sur les chaînes, que ce soit en radio ou en télévision. On voit beaucoup d'intervenants qui louent les mérites de Donald Trump, sa vision pour le futur.
Sans compter Mélanie, Orban, on va être encerclés, hein, les Allemands. Les Allemands qui arrivent, les Hollandais qui sont pas loin. Les taux se resserrent. Hein.
On a l'impression que les taux bégayent. Hein.
Ouais, les taux se resserrent et voilà.
Ça vous fait peur ou pas ?
Oui.
Moi, extrêmement. Oui.
Moi, j'ai peur.
Oui.
J'ai peur pour les enfants qui arrivent. Là.
Ouais.
Ils vont vivre dans un monde. Nous, on a eu cette chance de vivre une période d'une grande stabilité. Et puis depuis maintenant une petite dizaine d'années, ça dérape tout doucement et on va vers des images, des comportements qui ressemblent étrangement à ce qui s'est passé dans les années 20 et 30.
Oui, alors
je dirais même, pour ajouter à Gérard, on a vécu jeune avec les missiles, l'URSS, les États-Unis, il y avait une angoisse, puis tout d'un coup... Tout s'est dégagé, l'URSS a disparu.
Fin des années 80,
là,
c'est vrai qu'il y a eu
15-20 ans d'espoir.
Ouais.
Et puis là, le retour perdu. De bâton, quoi.
Ouais, alors moi, je suis à contre-courant des deux vieux, là, parce que je suis vieux, moi aussi. Je suis vieux aussi, mais je pense que c'est un discours de vieux qu'on tient, là.
Bah oui,
c'est-à-dire,
évidemment.
À l'époque, c'était mieux.
Non, c'est pas ce qu'on a dit.
Je dis que ça ressemblait étrangement à ce qui s'est passé. Et toute la période des années 20, 30 et 40, excuse-moi, c'était pas brillantissime.
Ouais, et puis avec la guerre froide, c'était pas brillantissime.
Mais non, je suis d'accord, mais de là à mettre tout en noir, tout en gris, et dire aux enfants... je vous plains parce que demain ça va pas être du tout intéressant pour vous. C'est triste. Ça leur donne aucun espoir.
Moi, je me souviens de mon adolescence.
Je pense qu'il y a quand même des découvertes, des façons de voir la vie, de gérer, qui sont innovantes et qu'il faut prendre en compte.
On parle de politique là.
De l'extrémisme. Bien sûr. On est d'accord. Yves, tu as raison. Mais moi, j'ai vécu mon adolescence dans les années 70. Et je crois pas que mes enfants aient eu la chance de vivre une adolescence comme la mienne. Les années 70 étaient quand même des années qui étaient, d'insouciance totale, quoi. D'insouciance totale.
Par rapport à la situation mondiale.
Bien sûr.
Oui, d'accord, mais sinon...
Mais pas que mondiale, hein. Pas que mondiale.
Oui, et puis même...
Moi qui suis quand même un peu plus vieux que vous, un petit peu plus vieux que vous, moi j'ai quand même connu des gens... parce qu'à l'époque, il y avait deux bacs complets, pas des bruquis. Le premier bac, c'était toutes les matières, et le deuxième bac, toutes les matières.
C'est des vrais beaux.
Oui, sauf que ça n'existe plus.
Oui, oui, oui.
Et cette manière de voir les choses à l'époque, elle permettait à n'importe qui sortait du premier bac de se retrouver directeur d'une agence de bancaire ou autre. Tu sortais, tu voulais du boulot, paf, tu avais du boulot. Aujourd'hui, tu fais paf, t'as pas de boulot. Même si en traversant la rue, certains trouvent facilement de l'argent.
ou en achetant des bitcoins.
En tout cas, pour toi, tout n'est pas noir complètement aujourd'hui.
Non, et je dis qu'il y a de l'espoir et qu'il ne faut pas tout noircir. Comment veux-tu que des jeunes de 20 à 30 ans puissent avoir confiance en l'avenir si on n'arrête pas de la rabâcher que c'est foutu.
Ah non, mais moi je dis pas ça. Je dis simplement qu'il faut prendre conscience de la situation pour justement s'équiper et se battre. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est là. C'est que tu le veuilles ou non, la situation internationale, elle est présente. La situation française, elle est présente. Elle est dure si on la laisse faire. On évoquait tout à l'heure ce qui se passe tout autour de nous et ce qui risque de se passer un jour en France. Moi, personnellement, ça me fait peur. Voilà. Oui. Quand je vois la montée de l'antisémitisme dans nos pays, excuse-moi...
Oui, on ne peut pas être très serein.
Non, bien sûr.
Moi, quand j'étais au lycée, dans les années 60, ces questions-là ne se posaient pas. Il y avait les effets de la Shoah étaient présents dans la tête des gens. Aujourd'hui, tu discutes à la sortie d'un lycée, tu leur demandes de parler de la Shoah. Moi, j'ai peur d'avance de ce qu'on va entendre.
Mmh. Et puis, le lycée de Gérard était sous la protection de Dieu, puisque accolé à la cathédrale de Strasbourg.
C'est
donc,
vrai. Lycée Fustel de
Ça, c'était quand même une chance inouïe.
Tu voulais réagir, je te vois avec...
Non, moi, je dis, les jeunes peuvent être toujours inquiets tant que François Hollande sera là.
Et non, Ségolène, je m'explique. Non, t'as pas parlé de Ségolène.
Et Ségolène.
Que lui.
Il n'a pas parlé de Ségolène. Tu vois que j'ai de la mémoire. Je me souviens d'avoir été au Coq-à-l'âne.
On a toujours des...
Comment ça s'appelle ? Alors, moi, j'ai un truc par rapport à Trump sur la situation de l'Ukraine, si tu...
Oui.
Bon, c'est une opinion perso. Hein.
Mais tu peux, alors, on est là pour ça.
Voilà. Moi, je dis qu'il y a quand même sur la frontière avec la Russie énormément de gens qui sont russophones. C'est ce que j'ai entendu.
Oui.
Alors, moi, j'y connais rien, mais historiquement, j'ai bien compris qu'avant, c'était l'URSS. Maintenant, c'est l'Ukraine et la Russie. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui habitaient dans ce coin-là qui n'étaient pas forcément contre les Russes. Puisqu'ils y étaient habitués, ils ont vécu, etc. Et d'après ce que j'ai compris, alors arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais Trump a l'intention de négocier avec Poutine en disant, bon, écoute, je vais m'arranger avec le président de l'Ukraine pour que toi, ces zones-là, tu les récupères. De toute façon, les gens, ils ne seront pas forcément contre. Mais par contre, t'arrêtes tout de suite la guerre. Et tu laisses peinard Kiev. Mmh. Et puis, je m'engage à ce que l'Ukraine ne soit pas dans l'OTAN pendant au moins 10 ans et que tu craignes rien. Mmh. Et ça, c'est ce que j'ai entendu de commentateurs. Est-ce que c'est ce qui se passe ou pas?
C'est ce qui pourrait se passer éventuellement.
Ouais.
Mais après,
Moi, je dis que c'est pas forcément con. Le problème.
Oui. Est-ce que tu penses que nous, on va garder l'Alsace et la Lorraine? Moi, c'est la question que je te pose. Parce que est-ce que quelqu'un va un jour venir nous voir en disant, dites donc ça, avant, c'était pas à vous, on voudrait les récupérer?
J'en pense rien parce que je suis pas connaisseur de l'Alsace et la Lorraine. Il y a des gens à mes côtés qui sont.
Il a raison.
Non, mais.
Il a raison là-dessus. Moi, j'ai un grand-père, mon grand-père paternel, qui est né sous le régime allemand, qui a donc jusqu'en 18 été allemand, de 39 à 45 est redevenu allemand, et bilan de tout ça, il n'a jamais parlé français. En chair, le curé prêchait en allemand, et les papiers de la sécurité sociale sont en allemand. Maintenant, allemand-français. Mais ça, c'est des réalités. Et l'Alsace, quand tu la reprends, quand tu vas au-delà de 70, tu te rends compte que l'Alsace n'a pas toujours été française. Elle est devenue française sous Louis XIV. Et après, il y a eu tous ces épisodes particuliers qui ont fait qu'elle est devenue allemande. Donc, c'est pas simple, ces problèmes.
Ce que tu
évoquais tout à l'heure sur le fait que, effectivement,
les
Ukrainiens qui sont
en limite,
russophones, ça ne peut pas dire que
parce
que
tu es russophone,
ils peuvent être ukrainiens.
Non, mais bien sûr, mais j'ai pas dit.
Et en Alsace, c'est pareil. Les gens qui en Alsace en 70 ont été obligés de passer sous régime allemand, ceux qui sont restés, ils n'étaient pas tous pro-allemands.
Ah ben j'entends bien, mais
encore,
simplement il y a une question
qu'ils regrettent pas d'avoir été allemands une certaine période, parce qu'en 1906 ils ont eu la sécurité sociale.
Oui, et puis ils ont un régime particulier.
Ils ont toujours, et qui est bénéficiaire.
Voilà. Mais c'est parce que c'est une gabegie d'argent, une gabegie de morts.
Mais bien sûr,
et
comme toutes les guerres.
Oui, mais là, c'est quoi? C'est l'argent qui va déterminer, puisque tant que les États-Unis, avec Biden, donnent du pognon, la guerre continue.
Ben oui.
Si Trump il dit, moi, c'est terminé, je donne plus d'argent, je propose une solution autre. Et ça va se terminer.
Peut-être comme ça.
C'est ce qui va se passer.
Voilà. Mais c'est l'argent qui va décider.
On n'a pas parlé d'un sujet important, c'est la disparition de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de déclarations de nos politiques en local. Est-ce que cela vous a étonné?
Moi, je pense qu'ils n'ont rien dit parce qu'ils n'osaient pas rien dire quelque
réagir.
Chose. Je cite Coluche. Hein. Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute sur le sujet.
Ouais. Mais enfin, sur Jean-Marie Le Pen, t'as Macron qui dit « l'histoire jugera ».
Oui.
Donc, je veux dire, c'est une phrase qui est bateau, mais qui est
oui, mais
effectivement
dans les,
juste.
Dans les Alpes, on a...
Rien. Il y a eu très peu, même du côté du RN, il y a eu très peu.
Charlie Hebdo qui a fait quand même
une
quand même, savoureuse.
Oui, c'est sûr. Oui, on parlait des jeunes tout à l'heure. Tu disais qu'ils ont la chance aussi aujourd'hui d'avoir les nouvelles technologies à leur disposition. Oui. Et c'est vrai. Par contre, ils ont peut-être aussi la malchance d'avoir les réseaux sociaux à leur disposition. Et ça, je pense que ça, c'est quand même le pire fléau qui a été inventé dans le monde depuis de longues années. Qui aurait pu imaginer, il y a quelques années en arrière, quand les réseaux sociaux se sont lancés, que ça allait devenir un déferlement d'âneries, de bêtises, de conneries phénoménales, validé par beaucoup de personnes, parce que qui va vérifier? Qui va vérifier? Voilà.
Oui.
Nous, on a quand même de la bouteille, donc on sait et on va vérifier certaines choses. Moi, je passe ma vie à vérifier des choses que je peux voir sur les réseaux sociaux. Les jeunes, non. Il y en a beaucoup, ils ne vérifient rien. Ils prennent ça pour argent comptant.
Oui, oui.
Et on a mais des conneries. Alors, je vous en ai sélectionné parce que je voulais quand même qu'on déconne un petit peu. Hein, c'est pas ça. Je voulais vous faire écouter quelques conneries que j'ai découvertes cette semaine sur les réseaux sociaux. Par exemple, celui-ci.
Et ils nous ont fait gober qu'on pouvait aller sur la Lune, alors que la Lune, c'est du plasma. On ne peut pas se poser dessus. C'est impossible. Parfois, en plein jour, on voit la Lune et le Soleil en même temps. C'est vrai. On s'est tous fait la réflexion. On s'est dit, ah tiens, c'est bizarre, il fait jour et on voit la Lune. Bah, une Lune qui serait dense comme la Terre en matière, on ne verrait pas au travers. La Lune, ce n'est pas une planète.
Bah non.
C'est du plasma.
Bah
donc alors... personne n'a pu se poser dessus. Bah et quand on voit un croissant de Lune, bah... c'est pas notre soleil qui vient faire ce croissant de lune, mais le soleil de Gaïa.
Eh ouais.
Ah bah voilà.
Eh ouais. Voilà. Non mais c'est un exemple.
Où est-ce que tu as trouvé ça?
Ah ben sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Oh bah j'en ai d'autres. Hein. Avec les platistes.
Ah les platistes, j'ai vu un truc.
Ils sont magnifiques les platistes. Parce qu'il faut savoir que la terre est plate.
Oui.
Et qu'il y a un mur de glace autour. Ouais, ouais. C'est ce qui retient l'eau. Parce que bah oui, sinon l'eau elle tomberait.
Sur un disque, il y a de l'eau. L'eau elle tient comment? Il y a bien au centre de la Terre le pôle Nord, et au sud de la Terre, à ses extrémités, d'accord, il y a le pôle Arctique, l'Antarctique. Et il y a un mur de glace. Il y a un mur de glace qui doit mesurer entre 50 et 100 mètres de haut, suivant où c'est réparti. Hein.
Ouais.
Et c'est ça qui retient les eaux, pour pas que les eaux tombent.
Ah oui.
On nous montrait à l'époque, à l'époque de la Renaissance, au 19e siècle, ces attardés qui croient encore à la Terre plate. T'imagines, toi, l'eau, elle tombe des côtés, c'est pas possible. Ou alors l'explorateur, le marin, qui part comme ça vers le nord ou qui part vers le sud pour aller aux États-Unis.
Charlie Dalin, faut lui en parler.
Il a peur parce qu'après, il arrive à la fin de la mer et la mer, elle tombe et il a peur de tomber dans les abysses.
Bah, oui.
Quand Dieu a créé la Terre, il a créé des limites. Il a dit, j'ai tracé un cercle sur le sol. Et j'y ai défini des limites.
Sur quel sol?
Il est formidable, le dieu, quand même. Il a une bonne idée. Il a fait un cercle, il a dit, bon, alors ça, c'est la Terre. Et puis là, je vais mettre un petit mur, histoire de... Voilà.
C'est le dieu compas.
Voilà. Mais non, mais... Alors,
c'est gravissime.
Nous, ça nous fait sourire, évidemment. Ça nous fait sourire. Mais il y en a beaucoup, après, qui valident ce genre de choses.
Alors... Là, tu parlais des réseaux sociaux, mais si tu regardes l'informatique et notamment l'Internet, c'est extraordinaire le développement de savoir qui a pu se propager dans le monde grâce à des émissions qui ont été mises gratuitement à tout le monde sur des trucs intelligents et non pas ce que tu viens de nous faire écouter. Et si tu sélectionnes, c'est une mine de savoir et un échange et une solidarité entre les peuples qui pourrait se faire.
Si tu sélectionnes.
Si tu sélectionnes.
C'est une invention extraordinaire.
C'est extraordinaire.
Moi, j'ai souvent en mémoire les médecins depuis 15 ans. Je pense qu'ils ont au moins 9 patients sur 10 qui arrivent, qui savent déjà ce qu'ils ont. Ah, parce que la nuit d'avant...
Ils ont déjà travaillé.
Ils travaillent.
Bah oui.
T'as été dans le médical.
T'as été vétérinaire, donc tu sais comment ça se passe.
T'avais connu. Moi, je pense que c'était. Il y avait déjà l'influence internet. Les gens, ils arrivent. Bah, mon chien, il a ça.
Voilà.
Toi, tu dis, bah oui.
Qu'est-ce que je vous donne?
Dites-moi un peu. Mais le corollaire de ça, c'est que tu vas chez le radiologue, il regarde un truc, il ne sait pas l'analyser parce que tu as ou un IRM, un machin. En un clic, il est dans le monde entier, chez tous les radiologues du monde, et il y en a un qui lève le doigt.
Oui, d'accord. Il y a 50 000 cas identiques.
Ce cas, je l'ai vu, et c'est ça. Voilà.
Donc c'est ça aussi le positif.
Bah, voilà. Il y a les deux aspects.
Exactement.
Il y a les deux aspects. L'info qui circule très vite, la bonne info circule malheureusement moins bien que la mauvaise.
C'est ça le problème. Donc oui, je suis d'accord. Hein. Ça s'est accéléré en l'espace de quelques années. Hein. C'est un truc de fou. Hein. La technologie, elle a avancé à une vitesse. Comment on pouvait imaginer, ne serait-ce que ce petit téléphone, là, il y a ne serait-ce que 20 ans en arrière. Enfin, c'est quelque chose de phénoménal. Qui est très bien, mais qui a ses revers aussi.
Le téléphone est une fonction accessoire. Hein,
Oui, exactement. Ah ben moi, maintenant, je téléphone plus. Hein. Alors, moi, c'est clair, hein. Je n'appelle plus et je ne réponds plus.
J'appelle ça voilà. Un téléphone, mais ça n'en est pas. Hein.
Un dernier sujet très rapide, parce qu'on va bientôt se quitter. Le dérèglement de la planète, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses qui n'allaient pas. Bah, on a oublié quand même le dérèglement de la planète.
C'est-à-dire que tu veux dire que le mur de glace se réduit.
Oui, il risque de fondre.
D'accord, donc ça va tomber alors.
Il risque de fondre et là, il y aura plus d'eau. Exactement.
Ça c'est la merde.
On va vider les océans.
Voilà. Donc on peut peut-être être climato-sceptique comme certains, mais force est de constater que ça s'intensifie, et pas seulement ailleurs, hein, chez nous aussi. Vous avez vu les inondations en France depuis un an, c'est pratiquement tous les mois, enfin, c'est très inquiétant. D'ailleurs, les primes d'assurance ont explosé et je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça s'accélère beaucoup.
Un des dangers qu'on relevait avec Gérard tout à l'heure de voir Trump arriver, c'est qu'il est climato-sceptique.
Oui.
Et donc voilà, ça ne va pas aller dans le bon sens si on met au pouvoir des gens comme ça aussi.
Ceci dit, tout ce qui se passe actuellement, si on refait l'histoire de la Terre... par le biais des carottes glaciaires, de
bien
tout
sûr,
ça.
Bien sûr.
On se rend compte qu'il y a eu des périodes qui ont été pires que celles-là.
Bien sûr. Au Moyen Âge, il n'y avait pas de glacier. Dans une période du Moyen Âge, il n'y avait plus de glaciers.
Et à l'inverse, sous Louis XIV, il y a eu une petite glaciation. Voilà.
Oui. Voilà. Non, mais là, c'est l'accélération en fait. C'est l'accélération des événements, parce que là, tu parles sur des millions d'années, mais là, sur très très peu d'années.
Non, mais c'est vrai.
Moi, j'avais entendu quelqu'un qui, je veux retenir quelques trucs, mais en disant sur l'histoire de la Terre. Sur une année, en fait, nous, l'homme est arrivé le 31 décembre à midi, par exemple.
Aujourd'hui,
les événements se sont accélérés sur les trois dernières heures de l'année, si tu veux. Donc c'est ça qui m'inquiète. C'est pas tellement que ça s'est jamais passé, mais c'est l'accélération.
C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est-à-dire que c'est la présence de l'homme et ses effets de technologie qui font qu'il y a une accélération.
Qui aurait accéléré.
Mais par contre, on a vécu des choses incroyables, c'est vrai. Puisqu'il y a eu les dinosaures, il y a eu des astéroïdes, il y a eu plein de choses. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ça s'accélère vraiment beaucoup.
Oui.
Je crois qu'il y a la combinaison d'une période de réchauffement rajoutée aux dégâts faits par l'homme.
Voilà.
Je crois qu'il y a les deux. Parce que moi, je me souviens d'avoir fait une rando en Suisse il y a 30 ans. Et il y avait des panneaux qui matérialisaient le glacier. Mmh. Et le glacier, il y avait 1860, et puis 1870, il avait reculé. Et à l'époque, on ne peut pas dire qu'en 1800, ou quand on voit les photos de Chamonix, du glacier de l'Argentière, il venait lécher l'église de l'Argentière. Mmh. Il n'y avait pas un camion qui passait, il n'y avait rien. Donc on avait constaté déjà une période de réchauffement en 1800 et quelques.
Oui, mais 1800, par rapport à la création de la Terre, c'est rien du tout.
Je dis juste qu'il y a une période de
13h45.
Deux choses qui chevauchent.
C'est rien.
Et oui. Voilà une émission qui vous aura fait plaisir, chers auditeurs. Plein d'optimisme pour cette année 2025. C'était très bien. On se retrouve le mois prochain. Et puis à Briançon, ce sera dans 2 mois. Merci beaucoup.
Mais
Gérard Fromm qui était notre invité, s'il vous plaît.
Ce fut un plaisir.
Merci Gérard, Philippe, Yves, Rémi. Merci à vous.
J'espère être là dans 2 mois.
Oui, j'espère, oui. Allez, passez une belle journée. À très bientôt. Et bonne année.
Bonne année.